Bonjour, c'est Bernard et je vous propose une évasion sur mes chemins particuliers. Une évasion dans notre actualité européenne en compagnie d'un témoin du temps présent.
Je m'appelle Pierre et j'ai 67 ans.
Pierre, si je vous dis 25%.
Alors 25%, il faut savoir les 25% de quoi. Apparemment, c'est pas 25% donc des Français en totalité, c'est 25% des gens qui se sont déplacés pour aller mettre un bulletin dans l'urne.
Parce que nous parlons aujourd'hui des élections européennes qui viennent de se dérouler.
Oui, elles nous sont tombées dessus, non pas avant, mais le soir des résultats. Il y a de quoi être stupéfait et être très inquiet, à mon avis. Ma première réaction, passer la stupéfaction, parce que je ne savais pas qu'elle aurait été aussi grande, ça a été le lendemain d'aller mettre un crêpe noir sur le monument aux morts avec... écrit sur une pancarte blanche, nous ne sommes pas morts pour ça. Quelle honte. Et puis, en fin de compte, ce serait une dégradation de monuments publics, c'est très sévèrement puni donc, par la loi, et comme étant d'une lâcheté assez commune, j'ai jamais traversé en dehors des clous, j'étais trop jeune pour envoyer des lettres de délation donc, et à la commande en tour, puisque j'étais pas encore né, ce que je regrette donc et profondément. Et donc, j'étais surtout donc stupéfait que le Front National n'obtienne que 25%. Parce que quand même, il faut remettre l'ordre en tout ça. Donc il y a des jeunes, il y a des gens venus d'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas de boulot. Il faut rétablir donc les chantiers nationaux pour que tout le monde aille creuser des trous le matin et les reboucher parfaitement pour le soir. Et puis les 35 heures, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il faut les mettre à 70 heures par jour, cette bande de feignants. Et puis, il faut nettoyer la France. Il faut nettoyer la France parce que c'est un pays propre, avec un passé propre. Un passé qui lui est propre aussi, mais c'est un passé propre quand même. Au temps du maréchal, il y avait un ordre absolument extraordinaire, et il y avait des vrais Français qui formaient des sortes de brigades pour surveiller les gens, un peu comme les voisins vigilants aujourd'hui. C'est très très important, les voisins vigilants, parce que ça rappelle donc la montée, une prise donc de conscience que la France appartient aux Français. Et puis il faudrait que la délation redevienne une valeur morale. C'est extrêmement important. Et aussi, donc, compte tenu des propos tenus par Madame Le Pen, je vois une nouvelle aube qui se lève sur notre pays. Et ça me réjouit au plus haut point. Quant aux 75% qui n'ont pas voté pour notre seul espoir, j'ai pas de qualificatif. Je préfère me taire. Bref, les mots me manquent. Tellement mon émotion est forte et tellement je suis scandalisé par leur mauvais choix. Voilà. Donc, et quand on voit des personnalités aussi brillantes, aussi rutilantes, et ayant une mémoire de ce qui s'est passé entre 40 et 44, on voit quand même que les livres servent à quelque chose et que Internet sert à quelque chose. Moi, ce qui me réchauffe le cœur, c'est tous ces jeunes gens qui vont sur Internet, sur des sites qui rétablissent donc la vérité sur cette espèce de légende de la Shoah. Hein, c'était des figurants, Les Allemands n'étaient pas des nazis, c'est faux, tout ça, c'est une mise en scène, c'est une conspiration. Et enfin, la vérité reprend ses droits grâce à la lumière que nous apporte Marine Le Pen et son équipe absolument éblouissante. Quand on voit la sincérité de Maître Collard, quand même, c'est un monsieur, on voit que il connaît pas les ficelles, donc du discours, il est franc comme l'or, et on ne peut que comprendre. C'est pas quelqu'un qui est allé à la soupe, c'est quelqu'un qui a des convictions, des vraies convictions et tout ça. Et quand on voit la pondération des gens qui ont emporté des mairies, ils ont une modestie donc, dans leur triomphe absolument extraordinaire. Et c'est une bonne chose. C'est vraiment une excellente chose. Je suis très inquiet parce que mon intervieweur est mort de rire. Alors, en plus, j'ai peur qu'il ait une apoplexie parce qu'il se retient pour pas que ce soit enregistré. Je voudrais pas rapporter quelque chose. J'ai pas de papier sous la main, mais bon, quand même, je me demande s'il se moque pas de moi et de mon discours. Hein. Mais les temps, ils vont changer. Les temps sont déjà en train de changer. Et c'est ça l'important.
N'êtes-vous pas déçu que le brun ait viré au bleu marine ?
Ah, je me suis demandé pendant un petit moment si l'océan n'allait pas porter plainte. Mais heureusement, l'océan ne sait pas écrire et ignore les lois. D'ailleurs, et l'océan, je voulais dire qu'il se conduit très très mal en ce moment. Il détruit nos belles plages. Donc il y a des villas au bord de la mer qui ont servi de centre d'interrogatoire à la Gestapo, et ces monuments historiques vont être rongés par l'océan.
Par le bleu marine.
Par le bleu marine, justement. Hein? Et puis, bon, écoutez, la joie m'étouffe.
Et l'angoisse m'habite.
Je vous rappelle que l'ordre moral est à nouveau à l'honneur. Ce genre donc d'élucubration de basse extraction, certes, on a une vie intérieure. Le juif Freud n'a pas écrit que des choses scandaleuses. Il y a une vie intérieure. Le fasciste a une vie intérieure, comme tout le monde. Certes, elle est carrée, elle a cinq côtés. Elle est bardée de fil de fer. On entraîne donc nos enfants au maniement du manche de pioche et de la barre de fer très très régulièrement. Mais on a quand même une vie intérieure. On sait lire et on incite les gens à lire quand on colle nos tracts et nos affiches de nuit et qu'on lutte contre les mauvais sujets qui eux-mêmes collent leurs propres affiches à 10 contre 1. Et à chaque fois, c'est très bizarre parce que nous gagnons.
En parlant de vie intérieure, est-il plus facile de construire une frontière que de faire des réformes ?
Alors, les réformes, vous allez les voir. Les frontières, vous allez les voir aussi, dans nos discours. L'Europe est contre nous. L'Europe oublie que quand même, la France du plus grand empire a existé. Et que les nègres, les gens frisés dont les femmes sont recouvertes de la tête aux pieds, ont des richesses absolument incalculables qui nous ont filé entre les doigts parce que le Troisième Reich n'a pas gagné. Hein, parce que dans l'élan de cette victoire, on aurait maté sous toute cette sous-humanité là qui maintenant est riche et qui va se venger. Mais grâce à nos frontières, les vengeurs ne passeront pas.
Sommes-nous à la veille d'un voyage qui sera au bout du jour ?
Je suis très surpris que vous ayez des références en tant que littéraire. Notre ami Louis Ferdinand Destouches a été un peu timide. Vous voyez, je suis quand même très très généreux parce que il s'est engagé, certes écrire, donc c'est très facile, mais on l'a pas vu donc être dans les tribunes en train de haranguer la foule comme certains de nos glorieux ancêtres, quoi. Et Louis Ferdinand Céline, je trouve que sa réputation de fasciste a quelque chose de... On a gonflé l'affaire. C'est comme tous ces intellectuels, vous voyez. Ils parlent beaucoup, ils écrivent beaucoup. En plus, il y a des fautes de ponctuation. Quelque part, il y a quelque chose de bourgeois, c'est-à-dire que le peuple a du mal à comprendre Céline, alors que le fond est certes indiscutablement intéressant.
C'est-à-dire que le peuple comprend très bien le discours bleu marine.
Ah, par contre, nous sommes des experts en dialectique et nous allons droit à l'essentiel, sans aucun détour. Le peuple, ce sont des gens simples qui aiment les idées simples. Et quand on affirme qu'une idée est une idée, c'est une idée. Parce qu'une idée, c'est une idée. Et si c'est une idée, c'est une idée. C'est tout. Et réciproquement.
Je vous propose une pause musicale.
Écoutez un extrait de la deuxième symphonie de Brahms, dirigée par Furt Wangler et enregistrée en 1945 à Vienne. Nous reprenons
début janvier
1945, soyons précis, à Vienne. Donc, nous reprenons notre entretien avec Pierre, 67 ans. Un entretien qui balaye un petit peu l'actualité électorale. Nous allons rester dans les pourcentages, Pierre, et je vais vous donner un autre chiffre, un autre pourcentage. Je vais vous dire 14%.
14%, je ne vois pas très bien. Est-ce que vous pouvez préciser votre question exactement? Parce que je n'aime pas les questions pièges et je n'aime surtout pas les questions que je ne comprends pas, parce que j'ai l'impression de passer pour un con. Alors je vous prie de répéter votre question, jeune homme.
Alors je vais être un petit peu plus explicite. Dans les résultats des dernières élections européennes, il y a eu un 25%, il y a eu d'autres pourcentages qui étaient derrière ces 25%. Il y a notamment eu un 14% d'un parti qui est au gouvernement.
Je ne savais pas qu'il y avait un gouvernement. Vous me l'apprenez. Et que rien fasse 14%, c'est 14% de trop, si vous voulez mon avis. C'est tout ce que j'ai à dire.
Bien, merci. Est-ce que nous continuons sur les pourcentages?
Comme il vous plaira.
Bien, donc restons dans les pourcentages. Si je vous dis 55% d'abstention.
Ah! Alors, les gens qui se sont abstenus, ce sont pour la plupart des gens qui ne viennent pas à nos manifestations. Donc il y a une couardise dans cette attitude, certes aller à la pêche ou aller au stand de tir le dimanche, ça peut se comprendre, les poissons ne peuvent pas se défendre et les cibles sont fixes. C'est sans doute une bonne chose, mais quand même, le devoir donc est de les appeler et ils n'ont pas rempli leur devoir. Peut-être nos affiches étaient-elles encore trop difficiles à comprendre. Et donc, ça, c'est un échec de notre part. Nous ne sommes pas arrivés à convaincre 65% des Français de venir voter pour nous.
Certes, et à propos d'affiches, et puisqu'il s'agit d'élections européennes, il y a un néo-nazi allemand qui a été élu et qui donc siégera au Parlement européen. Et sur son affiche électorale, on le voit au guidon d'une moto et il parle de gaz. Vous avez vu cette affiche?
Oui, j'ai vu cette affiche. On dit souvent que nous manquons d'humour et là c'était l'humour à plein gaz, si je peux m'exprimer ainsi. Et il est bon qu'une partie du peuple allemand commence à se souvenir de sa splendeur passée et souhaite que cette splendeur revienne. On reconnaît un peuple fort quand il arrive à surmonter les désastres qui le frappent. Et c'est un signe. L'Allemagne a actuellement une vigueur économique que nous lui envions, hélas. Mais maintenant, elle va acquérir à nouveau une force politique. Et elle va reprendre son destin sous ses bottes.
Bien, alors voilà donc de les perspectives que vous mettez en ligne, si j'ose dire, et je ne parle pas d'Internet. Ceci dit, quid de la franc-maçonnerie judéo-ploutocratique? Ça demande réflexion.
Non, c'est-à-dire que les solutions sont évidentes. Mais il n'est pas à nouveau temps de les exprimer. Ils sont là, quoi.
Oui, d'ailleurs, une des manières qui a été suggérée pour éradiquer le problème de cet envahissement coloré, dirons-nous, a été de publiquement proposé par un leader que vous devez trouver par moments assez mou, voire gauchisant sur les bords, mais qui a quand même proposé de diffuser le virus Ebola pour en finir avec cette république Benetton.
L'emploi du mot « monseigneur » montre la profonde ferveur de celui qui a eu le courage de proférer donc ces paroles. En plus, ce qu'il y a de pratique avec un virus, c'est qu'on peut pas, on peut pas le faire passer à la cour de Nuremberg. Et quand même, c'est un peu comme les drones, si vous voyez. Les drones tuent sans laisser de traces. Et là, c'est quelque chose donc d'extraordinaire qui va être une manière hygiénique, hygiéniste. D'ailleurs, donc, l'hygiénisme est quelque chose dans laquelle notre pensée baigne de la base au sommet, n'est-ce pas ? Il faut de l'hygiène et il faut nettoyer le monde, c'est absolument évident. Je parle du monde en surface, parce que bien sûr, il est hors de question de porter atteinte aux richesses que recèle le sous-sol.
Bien sûr, et donc un virus, Ebola.
Je trouve ce nom Ebola un petit peu exotique, mais bon, le cyclone B ayant déjà été utilisé, il fallait bien trouver un autre terme. Et dans une langue que les peuples concernés puissent comprendre. Et voilà, j'espère que je vous aurai fait marrer et je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, replonger dans les livres d'histoire, c'est quelque chose d'extrêmement urgent. Prêter ces livres d'histoire, inciter les gens à les lire, en discuter après pour bien éclairer les points importants et indubitables qui ont massacré donc la population au cours du XXe siècle, aussi bien en Europe qu'en Asie. Et c'est quelque chose d'extrêmement urgent. Voilà. Il ne faut pas oublier donc les autodafés. Hein. C'est quelque chose qui doit rester en mémoire, ces belles images avec ces feux de joie sur le parvis donc, et des universités où on brûlait les livres par antenne avant de brûler leurs auteurs et de brûler les personnes. Voilà. Eh ben, courage à tous. Voilà. Et puis, il faut garder le sourire. C'est pas parce qu'on a le sourire qu'on est inconscient. Au contraire.
Merci, Pierre. Merci.
Le colonel était dans la finance, le commandant était dans l'industrie, le capitaine était dans l'assurance, et le lieutenant était dans l'épicerie. Le juteux était huissier de la Banque de France, le sergent était boulanger-pâtissier, le caporal était dans l'ignorance, et le deuxième classe était rentier. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude, mais c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, ont des cautions, leur certificat d'études. Oui, tous ces braves gens sont partis chiquement pour faire tout comme jadis ce que leurs pères ont fait pour leurs fils. Rapparabarabarabar, le colonel avait de l'albumine. Le commandant souffrait du gros colon. Le capitaine avait bien mauvaise mine. Et le lieutenant avait des ganglions. Le juteux souffrait de coliques néphrétiques. Le sergent avait le pylore atrophié. Le caporal un corps isachronique et le deuxième classe des corps aux pieds. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas, oubliant dans cette aventure qu'ils étaient douillés, fragiles et délicats. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, prenaient des cachets, des gouttes et des mixtures, lèvent la bien portant, tout comme à 20 ans. D'où vient ce miracle-là, mais du pinard et du tabac. Le colonel était de l'action française, le commandant était un modéré, le capitaine était pour le diocèse, et le lieutenant bouletait du curé. Le juteux était un fervent extrémiste, le sergent un socialiste convaincu, le caporal inscrit sur toutes les listes, et le deuxième classe au PMU. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, n'étaient pas du même avis en politique, lèvent-la tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix.
Si l'humour est la forme suprême du désespoir, alors tâchons d'en user sans modération. Je vous engage à réécouter en podcast les chemins particuliers que j'ai arpentés en compagnie d'Antoine Blanchemain. Il nous a quittés au printemps 2014. Antoine avait 15 ans, 1939. Il a donc vécu son adolescence sous le régime de Vichy et il n'a pas oublié. Quand la mémoire disparaît, c'est l'avenir qui meurt. Alors, à bientôt sur d'autres chemins particuliers.
I'll meet you on God's golden shore.